Pauline Pucciano, La cité hantée. Chapitre 5. La constitution d'Albâtre. Sans le secours de l'esprit, la concentration d'Aumont était devenue plus difficile. Au bout de 2 ou 3 heures, son cerveau commençait à s'embrouiller, à perdre de son efficacité. Des images malvenues se présentaient à sa conscience, des images de femmes surtout, et il devenait de minute en minute plus distrait. Aucun natif de la haute ville, pas même lui, ne pouvait raisonnablement se résigner sans nostalgie à la perte de l'esprit. Aumont se disait parfois que s'il avait pu s'isoler loin des papillons rouges, ne serait-ce qu'une seule semaine, le projet de constitution serait déjà écrit, limpide, structuré, exhaustif, parfait. Mais il fallait faire avec les ratés de sa mémoire et surtout de sa concentration défaillante. L'époque où il pouvait compter sur un esprit rapide, entièrement focalisé sur un objectif, était révolue. Il fallait supporter, comme un vieillard sénile ou un enfant balbutiant, les errements de son cerveau dont la lenteur, les variations d'intensité, les sautes d'humeur le rendaient presque fou. Il se sentait comme les dieux des monothéismes devaient se sentir après avoir créé leur immense et sublime création, épuisés en face de problèmes insolubles et sans nombre d'une complexité diabolique. Ils ne s'étaient pas engagés à cela en créant, ils avaient simplement obéi à un élan. Ils n'avaient pas envisagé un seul moment cette partie de la tâche qui leur incombait pourtant indubitablement. Aumont se sentait pris au piège de ce casse-tête infernal, qui lui échéait sans nul doute, mais qu'il se sentait parfaitement incapable de résoudre. Les paramètres à prendre en compte étaient si nombreux, les critères de décision si flous, si glissants. Que n'avait-il écrit la constitution de son utopie avant de se lancer dans la révolution ? Il aurait eu le temps alors et n'aurait pas été dérangé sans cesse par les litiges à trancher, les décisions à prendre dans l'urgence, les brèches à combler vaille que vaille. Il aurait eu le temps et surtout l'esprit. Aumont jeta à terre son vélin dans un geste las, puis le ramassa, vaincu. S'énerver était improductif, regretter était improductif, et il devait pondre cette constitution quitte à faire éclater son cerveau débile et maladroit. Il prit une profonde inspiration et tenta de se calmer. Un léger picotement dans sa pierre frontale se fit sentir, comme un mot sur le bout de la langue, un désir impérieux et réprimé, un membre fantôme lancinant au bout d'un moignon. Tant de choses à concevoir. Combien d'assemblées pour représenter le peuple? Comment désigner les représentants? Les décisions devraient-elles être prises par vote ou par consensus? À quelle instance confier le pouvoir exécutif? Le livre des lois devait-il être entièrement reconsidéré ou partiellement conservé? Fallait-il privilégier des mesures incitatives ou coercitives pour forcer les deux communautés à se mélanger? Fallait-il rogner sur les libertés individuelles pour garantir l'ordre collectif? Les guildes devraient-elles réapparaître sous une autre forme? N'avait-il donc rien fait depuis 3 ans? Il en était à cette consternante question lorsque Daphnae apparut au seuil de la porte du cabinet. Voilà qui n'allait pas améliorer sa concentration. Daphnae était native de la ville basse et avait travaillé quelques années pour la Guilde de la Culture en tant que comédienne de théâtre. Elle était en fait l'une des plus réputées et des plus appréciées, des hauts comme des bas citoyens. Les bas citoyens qui travaillaient à la Guilde de la Culture avait toujours formé une sorte d'aristocratie en Basse-Ville, car ils savaient lire et écrire, et pour certains parler la langue noble. Il n'était pas rare non plus qu'une actrice devint la maîtresse temporaire d'un haut citoyen, ce qui faisait sa fortune. Daphnae avait sans doute eu beaucoup d'amants, elle avait des relations et de l'influence dans presque tous les milieux. Elle ne déparait ni au fond d'un bouge, ni dans le raffinement des palais, comédienne, rompue à tous les rites sociaux, à tous les exercices de langage, elle avait le génie de l'aisance comme d'autres ont le génie du commerce. Aumont avait partagé sa couche plusieurs fois, mais, fidèle aux traditions amoureuses de Hauteville, ne formait aucun projet précis à son égard. « Daphnae, salua-t-il, j'étais en train de me demander ce que nous avions fait depuis 3 ans. »« Depuis 3 ans ? » Eh bien, nous avons transformé l'espace, ce qui paraissait être la priorité absolue. Nous avons physiquement mélangé les communautés qui s'avoisinent et se côtoient maintenant comme chiens et chats dans une cour de ferme. Est-ce tout ? Non. Nous avons aussi humilié les hauts citoyens. Nous les avons privés de leur pouvoir psychique et nous les avons confrontés à la dure réalité de la vie, à la viande, à l'exiguïté, au bruit, au travail. Est-ce pour cela qu'on fait les révolutions, Daphnae ? Juste pour humilier les oppresseurs ? C'est un début, dit-elle d'un air fin. C'est un début qui a trop duré. L'économie est en train de péricliter. Le gouvernement provisoire est en train de s'enraciner. Les gens d'Albâtre n'ont pas de but commun, pas de direction. Tu y crois vraiment ?
À quoi ?
Tu crois vraiment que les deux communautés pourront n'en faire qu'une ? Je veux dire, à cette génération-ci ?
Il faut y croire.
Non, on peut aussi accepter que ceux-là se détesteront cordialement jusqu'à leur mort et les forcer à cohabiter malgré tout. Et miser l'essentiel de nos efforts non pas sur eux, mais sur leurs enfants.
La génération d'après. La génération de la nouvelle Albâtre.
C'est ça. Est-ce que ça ne pourrait pas constituer un but commun, justement ? Tout le monde s'intéresse à l'avenir de ses enfants.
Si tu veux vraiment une illusion, pourquoi ne pas prendre celle-là ?
Tu es cynique, Daphnae. Je suis réaliste. J'ai vécu en ville basse, de l'autre côté du canal. Tes beaux discours ne me convaincront jamais qu'à moitié.
Laquelle de ces deux communautés a le plus de rancune envers l'autre ?
L'actrice haussa les épaules. « Ce n'est pas une histoire de rancune, au monde, tu ne comprends pas. »«
Je sais, mon cerveau est un peu lent depuis 3 ans. »«
Le mien ne cesse de se développer au contact de toutes ces merveilles que vous nous aviez cachées. »« Je te dis que ce n'est pas une question de rancune. »« C'est une question d'identité, de langage commun, d'habitude, de valeur. »«
Le langage, justement, faut-il interdire la langue noble ?»«
Quelle idée !»«
Tu parlais d'un langage commun. »
Tu vas interdire aux gens de se parler dans leur langue natale chez eux ?
C'est absurde. La langue vulgaire est déjà devenue langue officielle, c'est assez. On n'a qu'à apprendre les deux langues aux enfants.
Aumont se tut un moment. Elle avait sans doute raison, mais on n'en était pas là. Il fallait d'abord une constitution avant de proposer des lois. Le gouvernement provisoire, s'il perdurait, perdrait toute légitimité. Il fallait une assemblée paritaire, avec autant de représentants des deux communautés. Et le chef de l'exécutif devait être un personnage hybride. Qui, selon toi, pourrait représenter ou incarner la nouvelle Albâtre ?
Maintenant ?
Oui.
Personne.
À Elenor ? L'actrice haussa à nouveau ses jolies épaules dénudées, où elle avait accroché des boucles. Les bijoux traditionnels de Hauteville s'étaient répandus avec la rapidité de la poudre chez les natifs de Basseville. Si les idées pouvaient se lancer comme les modes...
La mère de la Révolution, fit Daphnae avec ironie.
Eh bien, les bas citoyens lui sont très attachés, et les hauts citoyens la respectent, même s'ils la détestent. Tu veux vraiment nous embourber dans une monarchie ? La reine et le dauphin sur le trône, il ne manquerait plus que le retour de Keller.
Aumont fut plus agacé par cette sortie qu'il ne voulut bien l'admettre.
J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour tous les deux, et même si je crois Keller mort, je serais heureux de lui serrer la main au nom de la nouvelle Albâtre.
« C'est vrai, » dit-elle d'un air faussement contrit. « Qui suis-je pour me permettre de critiquer les héros ?»
Son visage mobile venait de se figer dans une moue moqueuse. Il y avait en elle un curieux mélange de finesse et de bestialité. Ses traits ciselés comme ceux d'une poupée contrastaient violemment avec la chevelure cuivrée, bouclée et ingouvernable qu'elle laissait le plus souvent flotter autour d'elle et répandre un parfum musqué, si exotique aux narines nobles. Elle avait les yeux d'un brun tirant sur le vert, qui variait subtilement au gré de ses rôles, et auquel elle parvenait à donner tour à tour de la profondeur, de la dureté, de l'amour. Ses yeux, son visage, son corps entier étaient un spectacle changeant et orchestré, qui versait le chaud et le froid pour mieux fasciner le spectateur. Elle s'approcha d'Aumont et l'enveloppa de son regard lascif et de son parfum capiteux. Et la constitution de la nouvelle Albâtre n'avança pas davantage ce matin-là.